OK, on va commencer notre étude. Reprenons nos Bibles et voyons ensemble dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la repentance. La repentance. C'est un sujet très important, mais je dirais aussi mal compris par plusieurs. Et je dirais que c'est mal compris parce que les hommes d'aujourd'hui veulent faire de la repentance une œuvre de l'homme. Combien de fois on entend des prédicateurs dire que oui, Dieu donne le salut, c'est un don de Dieu, mais en ce qui concerne la repentance, il faut que l'homme lui-même se repente pour que le salut soit efficace pour chacun. Mais cette manière de penser, il faut dire que ça met alors la clé du salut dans la main de l'homme. Et cela n'est pas le message de la Bible. Ici, dans 2 Timothée chapitre 2, et nous reprenons ce que nous avons vu la dernière fois en ce qui concerne un serviteur du Seigneur. C'est écrit, Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Voilà la phrase clé. D'où vient la repentance? Ici, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors, ce que nous pouvons déduire déjà de ce verset 25, c'est qu'aucun pécheur n'arrivera à la connaissance de la vérité sans que Dieu ne lui donne la repentance pour arriver à cette connaissance de la vérité. Donc, cette notion d'un tel libre arbitre de l'homme n'existe pas selon la Bible. C'est vrai, l'homme a une volonté, mais cette volonté est déchue. Cette volonté est dépravée, incapable de connaître Dieu, incapable de se repentir. Donc pour cela, il faut une œuvre de Dieu, ce qui est la repentance, une œuvre de Dieu donnée selon la volonté de Dieu à ceux que lui-même il a choisi depuis l'éternité pour qui Christ est venu mourir à la croix. Et alors, la suite, c'est d'arriver à la connaissance de la vérité. Et là où nous voyons le mot vérité, nous pouvons toujours ajouter Christ ou bien interpréter ça comme Christ qui est la vérité. Donc on peut lire ça de cette manière, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de Christ, du véritable Christ, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Alors, chaque pécheur né dans ce monde a deux problèmes. Tout d'abord, la nature pécheresse qui est en chacun de nous, mais ajouté à cela aussi l'aveuglement ou, comme c'est écrit ici, les pièges du diable, qui est l'adversaire de Christ et qui s'oppose à tout ce qui donne la gloire à Christ. Alors, il garde des hommes dans leurs ténèbres et ça demande à ce que Dieu lui-même donne ses repentances. Dieu lui-même donne cette grâce aux pécheurs pour arriver à la connaissance de la vérité. Et quand cela se passe, c'est écrit dans le verset 26, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, voilà encore, ce n'est pas l'homme qui est libre de décider quoi que ce soit. Sa nature pécheresse s'oppose à la grâce de Dieu, à l'Esprit de Dieu et à la vérité qui concerne Christ, et le diable, lui aussi, s'oppose. Alors voilà le texte que j'ai à développer aujourd'hui pour nous, et ma prière, c'est que le Seigneur nous donne la connaissance de la vérité telle que c'est décrite ici. Prions avant de continuer. Seigneur, je te remercie pour cette occasion de me réunir encore avec mes frères afin de pouvoir étudier ta parole ensemble et de comprendre davantage le message de Christ qui s'y trouve. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos yeux et de garder nos cœurs vers Christ, de tirer nos cœurs vers lui et de nous donner cette connaissance de lui dont nous lisons ici, de mieux connaître ce qu'est la repentance, et que Seigneur, dans ta grâce, tu nous donnes cette repentance pour connaître Christ en vérité. Alors nous te prions de bénir ces moments ensemble, et c'est dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, nous avons déjà vu dans le contexte ici que l'ensemble de tous ceux qui se disent chrétiens, qui professent être chrétiens, est envisagé comme une grande maison. Mais nous savons que dans cette grande maison de chrétiens, soi-disant, des gens qui professent connaître Christ, et cela peut être n'importe quelle assemblée soi-disant évangélique. Il y a beaucoup qui se propagent dans le nom de Christ, qui se disent évangéliques. Mais dans une grande maison comme cela, et une grande maison parce que ça parcourt le monde. Il y a dans chaque pays des assemblées qui se disent chrétiens. Alors, mais dans une grande maison, il ne faut pas supposer que tous ceux qui fréquentent ces assemblées, qui assistent au culte, sont les véritables enfants de Dieu. La Bible fait toujours une distinction entre ceux qui professent être à Christ et ceux qui le sont véritablement. Et la distinction est décrite ici dans le contexte, nous avons déjà vu dans le verset 20, comme ayant des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Et un peu plus loin, cela veut dire les uns sont des vases d'honneur. Et là, nous avons vu que ce sont des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, que Dieu le Père a élu depuis l'éternité, et donc étant des vases d'honneur. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que d'autres, mais par la grâce de Dieu, et par le sang versé du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des vases d'honneur justifiés par son sang. Et puis les autres sont d'un usage vil. Et là, il s'agit des vases qui prétendent, qui ont une apparence d'être à Dieu, mais qui ne sont pas en vérité. Et c'est pourquoi il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, nous savons que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire de nous-mêmes. Cela veut dire se purifier. Mais dans ce contexte, si quelqu'un se conserve pur, c'est dans le sens de se garder, de suivre cette voie de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas véritablement. Et c'est par leurs fruits qu'on peut les connaître. C'est possible que quelqu'un, au départ, confesse de ses lèvres le Seigneur Jésus et, en lisant ces passages de la Bible, dit même Amen à ce qu'il lit ou bien ce qu'il voit. Mais dans son cœur, le cœur reste toujours inconverti. Cela veut dire toujours attaché à soi-même ou bien attaché même à une œuvre quelconque, parce que les hommes gardent des pensées secrètes. On ne peut pas connaître l'esprit de ce qui est dans l'homme si ce n'est pas l'esprit de Dieu, ou bien l'esprit de l'homme qui peut connaître son propre esprit. Mais moi, je ne peux pas connaître ce qui est dans le cœur de l'autre. Tout ce que je peux faire par la grâce de Dieu, c'est examiner moi-même, de savoir si je suis un enfant de Dieu ou non. Mais si je suis enfant de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est une œuvre de grâce qui m'a été faite à cause de l'œuvre de Christ. Tout ce qui concerne le salut dans la Bible, c'est toujours à cause de Christ, non pas à cause de nous-mêmes. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens d'un côté, mais de l'autre, dans leur pensée, ils imaginent que leurs œuvres comptent devant Dieu, que Dieu peut accepter leurs œuvres ensemble avec l'œuvre de Christ. Ils voient le salut comme une coopération entre le pécheur et Christ, et c'est ce qui est dans leur pensée, même s'ils ne disent pas ouvertement. Mais tel n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu, parce que un enfant de Dieu, une fois convaincu par l'Esprit de Dieu et la repentance donnée à celui-là, il ne peut jamais regarder en lui-même pour dire qu'il y a quoi que ce soit qui puisse le recommander à Dieu. Que tout son salut, que ça soit pour sa rédemption, que ça soit pour sa justification, que ça soit pour sa sanctification, que tout vient de Dieu à cause de Christ. Alors, un vase d'honneur se garde, se conserve pur par la grâce de Dieu et ne peut pas suivre ceux qui sont en fait des vases de déshonneur, des vases d'un usage vil. Christ lui-même a dit des pharisiens qu'ils étaient des ouvriers d'iniquité. Ils avaient une apparence devant les hommes d'être des hommes de Dieu et ils avaient un aspect religieux ou bien d'intégrité comme les hommes peuvent le dire, mais pas devant Dieu. Vous savez que devant Dieu, ce qui vaut quelque chose n'est pas l'intégrité de l'homme. Tout ce qui est important pour Dieu, c'est la sainteté. Et quand on parle de la sainteté, il s'agit d'une vie sans péché. Mais cela exclut alors chacun de nous, parce que nous n'avons pas la sainteté en nous-mêmes. Et voilà l'importance de la doctrine de l'évangile de l'imputation, que c'est Christ lui-même qui a accompli toute la justice de Dieu en ce qui concerne la loi, et Même la pénalité de la loi, il a souffert la mort afin que Dieu soit juste tout en justifiant, déclarant juste les pécheurs pour qui il est mort. Alors voilà comment quelqu'un peut être décrit comme un vase d'honneur et quelqu'un se conserve pur dans cette doctrine, dans cette vérité en ce qui concerne Christ. Il ne dévie pas de cette vérité. Et c'est écrit en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à tout bonheur. S'abstenant de quelle chose? S'abstenant de suivre les gens qui professent être chrétiens, mais la base de leur confession, c'est leurs propres œuvres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous réunir ensemble, ni imaginer avoir une fraternité avec des gens qui ne sont pas appelés du Seigneur et que leur foi n'est pas fondée sur ce fondement de Christ et Christ crucifié. C'est pourquoi nous nous séparons, nous sortons du milieu d'eux pour nous attacher à Christ et Christ seul. Nous ne sommes pas en train de chercher la fraternité avec des gens qui compromettent l'évangile. Alors, c'est de ça que Paul écrit à Timothée ici, d'être un tel serviteur qui dirige son assemblée et ceux qui l'écoutent dans cette voie. C'est la prédication de l'évangile que Dieu a ordonné pour démontrer à la fin qui est pour Dieu, qui n'est pas pour Dieu, qui est le blé et qui est livré. C'est l'évangile qui distingue. Ce n'est pas à nous d'essayer de déchiffrer qui est qui. Non, prêchons Christ, prêchons son évangile, prêchons ce message qui donne toute la gloire à Dieu et à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Prêchons l'œuvre de Christ, ce qu'il est venu accomplir pour les pécheurs et ce qu'il a accompli à leur égard, pour ce peuple que le Père lui a donné. Et on verra, parce que Christ a dit que ses brebis entendent sa voix et ses brebis le suivent. Mais parfois, il y a des gens qui peuvent venir auprès de nous, s'asseoir longtemps et dire amen à beaucoup de choses, mais à un moment donné, maintenant, ils se révoltent en disant qu'ils ne veulent plus entendre prêcher un message qui ne donne pas au moins une responsabilité à l'homme. J'entends ça souvent. Les gens, d'un côté, encore dans leur pensée, cerveau, ils disent, oui, Dieu sauve. Et le salut vient de Dieu, et c'est par la grâce de Dieu. Et puis, on entend ce petit mot « mais ». Et quand ils disent « mais », cela veut dire qu'ils veulent maintenant renverser tout ce qui a été dit pour donner la gloire à Dieu. Et le problème, c'est que dans leur cœur, ils veulent que leur décision ou bien leurs efforts ou bien ce qu'ils leur zèle, que cela compte devant Dieu pour quelque chose. Mais Paul lui-même a décrit ça comme rien devant Dieu, parce que Christ est tout. Alors, c'est pourquoi dans le verset 22, Paul a dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. Là, il parle dans le sens d'être un jeune prédicateur, de ne pas être impressionné par les dires des gens qui nous écoutent, ne pas être poussé à changer dans sa doctrine ou son enseignement à cause de certaines personnes qui peut-être ont une certaine influence dans l'assemblée, de repousser ses passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix. Voilà les quatre fondements de la prédication de l'Évangile. La justice de Dieu accomplie par le Seigneur Jésus-Christ dans sa substitution à la croix pour son peuple. La foi, on a vu la dernière fois, la foi s'agit de la révélation de Christ dans l'Évangile. Ici, il s'agit d'une foi objective. Cela veut dire sur quoi est fondée la véritable croyance. Croire en Christ. La croyance a un objet. Et c'est ça qui est décrit ici comme la foi. Il s'agit du contenu de cette parole de Dieu qui a été donnée une fois pour toutes aux saints de tous les siècles. Il n'y a qu'un seul message, un seul moyen de salut, un seul sauveur, un seul sacrifice, une seule offrande par laquelle les pécheurs que Dieu a ordonné au salut, soit sauvé. Alors, la justice, la foi, la charité. Cela veut dire que si Dieu m'a fait grâce et c'est par son amour en Christ que je suis ce que je suis, cela veut dire que je ne vais plus vivre d'une manière à exiger quoi que ce soit d'autres personnes comme des conditions. Mais j'accepte les gens tels qu'ils sont et ce n'est pas à moi de repousser certains parce qu'il me semble qu'ils sont trop pécheurs. Voilà d'où viennent les divisions quand nos yeux sont sur l'autrui et non pas sur Christ seul. Si je constate comment il m'a aimé, et cela sans condition, que c'est par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Alors, dans mes relations avec ceux du monde, je ne dois pas être étonné alors de voir leur manière de vivre. Je comprends, parce que moi aussi, je suis pécheur de nature. Mais voilà où on arrive maintenant à l'importance de ne pas essayer de débattre ou avoir des querelles avec les gens comme si nous pouvons les convaincre, mais plutôt de prier Dieu, avoir l'espérance dans Dieu, le verset 25, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. De la même manière que je suis arrivé à connaître Christ par sa grâce, c'est cette même manière qu'il doit agir envers ceux qu'il a choisis, qui peuvent être encore dans le monde et n'ont pas encore attiré à Christ. Alors la charité, c'est d'avoir cette attitude envers d'autres, sans exception de race, sans distinction de race ou bien d'une situation sociale, que nous avons envers tous cette même attitude, qu'ils ont besoin de cette grâce de Dieu. Et puis la paix, d'abord la paix avec Dieu, que Christ lui-même, par sa mort, a acheté pour des pécheurs comme nous. Et puis la paix à l'intérieur, si nous sommes les objets de sa grâce, donc nous sommes en paix avec Dieu dans nos cœurs et la paix aussi avec d'autres. Nous n'avons pas besoin d'être ceux qui débattent, qui combattent, qui ont cet esprit-là. Et il dit tout cela avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà ceux qui vont comprendre ces quatre éléments-là, la justice, la foi, la charité et la paix. Entre nous, nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sont véritablement les objets de sa grâce, il n'y a aucune raison alors de se diviser. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 23, repousse les discussions folles et inutiles. Je ne peux pas vous dire combien de fois des gens se réunissent et ils veulent débattre des sujets. Et pour eux, c'est ce qu'ils appellent une bonne conférence. On débat des idées, on débat des sujets, mais il ne faut pas que le serviteur de Dieu soit impliqué dans de telles choses. Il n'y a qu'un seul moyen que Dieu a ordonné pour l'enseignement de ses enfants, et c'est la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas la discussion. D'où viennent maintenant les débats? Si on veut ouvrir la séance dans une session qui comprend le public, on aura des questions. Il y a des gens qui vont défendre leurs œuvres, ils vont défendre leurs idées. Et cela vient maintenant des discussions inutile et folle, parce que c'est écrit, sachant qu'elles font naître de querelles, et nous avons tous déjà assisté à de telles séances qu'on appelle études bibliques peut-être, mais c'est une manière pour des gens de partager leur ignorance au lieu de s'asseoir écouter quelqu'un qui a quelque chose à dire parce que celui-là est enseigné déjà du Seigneur à travers la parole. Voilà ce qu'il nous faut. Et c'est pourquoi Paul encourage Timothée de ne pas se laisser entraîner dans toutes sortes de méthodes qui, en fin de compte, n'accomplissent pas la volonté de Dieu et n'est pas dans le sens que Dieu lui-même enseigne dans sa parole. Alors c'est pourquoi c'est écrit dans le verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Et il doit au contraire avec de la condescendance pour tous. Voilà la manière que nous devons traiter tous ceux qui sont devant nous, la condescendance. Cela veut dire on ne se met pas au-dessus d'autres personnes, mais on se met à leur niveau, on comprend leur situation en tant que pécheurs, parce que nous sommes des pécheurs aussi, et on ne fait que leur montrer la voie de la grâce que Dieu nous a déjà montrée, révélée, et ça c'est en Jésus-Christ. Dans le verset 24, ça met de côté déjà, cette idée que le pasteur est au-dessus du peuple. On ne voit pas cela dans les Écritures. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu parmi d'autres que le Seigneur a emmenés vers moi et je n'ai qu'une seule mission à accomplir, c'est de leur annoncer la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça. C'est écrit dans le verset 24, être propre à enseigner. Cela a deux sens. Être propre à enseigner cette parole aux autres concernant Christ et la grâce de Dieu en Jésus-Christ et la manière que Dieu montre cette grâce, mais être propre à être enseigné moi-même. Même dans mes préparations pour ses cours ou bien pour la prédication, je dois moi-même être propre à être enseigné. Cela veut dire, j'ai besoin d'être enseigné moi-même avant de pouvoir enseigner d'autres. Et quand c'est comme ça, alors je serai doué de patience. Vous voyez ça dans le verset 24. La patience vient de Dieu. Ça vient de la grâce de Dieu. Où nous nous soumettons à sa volonté. Nous nous soumettons à sa parole. Nous sommes soumis à son Fils, Jésus-Christ, pour tout ce que nous sommes. Tout notre salut. Voilà notre témoignage. Je n'ai rien dans ses mains qui puisse me recommander à Dieu que c'est tout ce que je suis, ça vient de Christ. Alors, doué de patience, quand les gens veulent réagir contre le message de Christ, je comprends, parce que je suis de cette même nature et j'étais un rebelle dans mon cœur avant que je ne convertisse mon cœur. Alors, doué de patience. Et puis maintenant, voilà le texte 25 et 26. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il y a certains qui peuvent peut-être comprendre patience dans le sens de laisser faire quand il y a des gens qui ne sont pas en ligne avec la doctrine de Christ, de laisser faire. Mais vous voyez le mot là, il doit redresser. Et encore, ce n'est pas en nous de faire cela par la logique humaine ou notre propre sagesse, mais redresser avec la parole de Dieu. C'est pourquoi cette parole a été donnée. C'est afin que nous-mêmes et ceux que nous enseignons aussi soient redressés par cette parole. Dans 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16, c'est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, quand Paul dit ici « redresser avec douceur les adversaires », ce n'est pas avec la philosophie des hommes, ce n'est pas avec les idées des hommes, mais c'est avec cette écriture. Parce que cette écriture que nous avons ici entre nos mains, c'est inspiré de Dieu. Et voilà la manière que les pécheurs sont convertis. C'est par la parole de Dieu, mais entre les mains de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas mes interprétations de la parole qui convainc qui que ce soit. Voilà pourquoi chaque fois que nous prêchons, nous devons être dans cette parole et nous devons annoncer cette parole telle qu'elle est. Et c'est ça que Dieu utilise pour enseigner. Parce que si nous sommes enseignés de Dieu, Dieu, c'est de cette parole que nous sommes enseignés. Et pour convaincre. Pourquoi convaincre? Parce que nous sommes des rebelles par nature. Nous ne voulons pas accepter un Dieu souverain, un Dieu qui sauve qui il veut, un Dieu qui décide lui-même qu'il sauvera ou non. Voilà le problème que les hommes ont. Mais tel est le Dieu de la Bible. Alors, Dieu prend cette parole pour enseigner et convaincre ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il suffit de prêcher fidèlement chaque fois cette parole, cet évangile qui donne toute la gloire à Christ. Et c'est cette parole qui va déchiffrer ceux qui sont le blé et ceux qui sont livrés. Mais, voyez, le mot aussi convaincre et puis corriger. Ceux qui sont convaincus par l'Esprit de Dieu et sa parole, cette parole va les corriger. Je connais beaucoup qui me pose la question, mais est-ce que vous exercez la discipline dans votre assemblée? Est-ce que vous avez un comité des hommes spirituels qui vont maintenant discipliner ceux qui ne suivent pas cette parole? Et j'ai souvent dit, non, que c'est la parole qui discipline. C'est la parole qui corrige. Le mot discipliner, c'est le mot corriger. Alors, si cette parole ne convainc pas un homme, un pécheur, donc ce n'est pas mes paroles qui vont le convaincre. Si cette parole ne corrige pas un pécheur et l'amène à Christ dans la repentance, alors ce n'est pas mes paroles ou bien mes méthodes qui vont accomplir cela. C'est pourquoi cette écriture est donnée, inspirée de Dieu, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ça, ce n'est pas en train de dire instruire dans la moralité. On peut prendre la Bible et prêcher la moralité, mais ça, ce n'est pas la justice. La justice, le mot signifie juste. Et la seule justice que Dieu accepte à l'égard des pécheurs, c'est la justice que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu accomplir. Et à la fin de son œuvre à la croix, Dieu maintenant a mis au compte, il a imputé cette justice au compte des pécheurs pour qui Christ est mort. Voilà ce que nous prêchons. Et voilà ce qu'il faut pour que les hommes soient justes devant Dieu. Donc, instruire dans la justice, c'est d'instruire les pécheurs dans cette justice que Christ lui-même est venu accomplir à la gloire de son Père. Alors, revenons dans 2 Timothée chapitre 2. Il doit redresser, notez, avec douceur. Ce n'est pas en élevant la voix et en prêchant d'une manière à essayer de convaincre des hommes. Peut-être que par la suite, dans nos prédications, ça peut pousser des gens à répondre d'une manière d'émotion, mais ça, ce n'est pas une œuvre de l'esprit. C'est dans la douceur. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Nous n'avons pas besoin à élever notre voix. Christ lui-même n'a pas prêché de cette manière. Partout où il allait, il répondait selon les Écritures aux hommes. Donc, avec douceur, et voilà, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Et donc, c'est ça que je voudrais définir qu'est-ce que la repentance. Et encore, il y a beaucoup qui comprennent mal ce sujet de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Je voudrais que nous regardions ensemble dans Actes chapitre 20 et le verset 21. Parce que nous avons ici ce que Paul lui-même, l'apôtre de Jésus-Christ, a défini comme la repentance. Dans le verset 20 de Actes 20, Paul a dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Donc, il était un vase d'honneur et Dieu s'est servi de lui pour une œuvre utile. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, notez, et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. À l'époque, les assemblées se réunissaient dans les maisons. Ce que nous avons aujourd'hui avec les grands bâtiments, on ne voit pas dans la Bible. C'était de maison en maison. Je sais qu'il y a certains prédicateurs qui n'acceptent pas de se réunir avec leur congrégation dans la simplicité. Il faut toujours un bâtiment qui ressemble à ce que les gens appellent une église. Et ils imaginent qu'une fois bâti, voilà, alors ils auront une importance dans la communauté. Non. À l'époque, les gens se réunissaient dans leur maison. Et c'est de ça que Paul parle ici. Il prêchait, enseignait publiquement, cela veut dire dans les marchés, mais aussi dans les maisons. Mais voilà son message, annonçant aux Juifs et aux Grecs, donc sans distinction de race, voilà le message, la repentance envers Dieu, et notez, c'est écrit, et, ou bien même, c'est une manière de traduire cela, même la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous prenons sa définition ici, la repentance et la foi sont synonymes. Il n'y a pas de différence. Qui dit repentance dit la foi en Jésus-Christ. Et qui dit la foi en Jésus-Christ dit la repentance. Et notez, envers Dieu, j'entends beaucoup de prédicateurs en train de définir la repentance envers le péché, en ce qui concerne le péché. Mais le mot repentance veut dire avoir un changement de cœur ou d'attitude envers Dieu. Voilà le grand problème. Voilà ce qui est le péché qui condamne les hommes et les femmes. C'est qu'ils sont ignorants du seul vrai Dieu. Ils ignorent qui il est. Ils ont une idée de Dieu qui provient d'eux, mais n'est pas conforme à ce que Dieu lui-même révèle ici dans sa parole. Donc, une telle pensée, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très religieux et très étroit dans son comportement en ce qui concerne les hommes. On peut dire d'eux, ah voilà un homme qui est intègre et qui marche réellement selon les règles de Dieu, qui a besoin de repentance parce qu'il marche de cette manière pensant que c'est ça qui le rend acceptable devant Dieu. Pourtant, ce n'est pas ça. Il a besoin de la repentance envers Dieu. Cela veut dire de connaître Dieu tel qu'il est, de savoir qu'il est si saint qu'il ne peut pas accepter une œuvre de nos mains. Et donc, repentance envers Dieu, même la foi en notre Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Donc, synonyme, la foi, la repentance. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et ça, c'est la signification de la repentance, ce que c'est. Et une autre chose que je vois dans les Écritures, il y a des prédicateurs qui présentent la repentance comme si c'est un choix de l'homme. Et donc, ils donnent une invitation à la fin de la prédication pour dire aux gens, bon, si vous voulez vous repentir maintenant, ça c'est le moment. Et Dieu vous invite à vous repentir. Combien de fois nous avons entendu cela dans la prédication des hommes. Mais je dois vous dire que la repentance ne dépend pas de l'homme et ce n'est pas une invitation. C'est plutôt commandé par Dieu. Si vous voyez dans Actes chapitre 17, parce que beaucoup me posent cette question, mais si la repentance est un don de Dieu, comment alors appeler les gens à la repentance? Et ma réponse, c'est que on n'appelle pas les gens à la repentance. La Bible ordonne aux pécheurs de venir à Christ dans la repentance. Je ne sais pas si vous appréciez cette différence. Ce n'est pas inviter les pécheurs à la repentance, mais ordonner, commander les pécheurs de venir à Christ dans la repentance. Cela veut dire avec ce changement de cœur que Dieu seul donne. Alors, nous voyons ça dans Acte 17 et le verset 30. Paul dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, notez, qu'ils aient à se repentir. Ce n'est pas un choix, c'est un ordre. Et c'est comme ça que nous prêchons la repentance. Ce n'est pas si vous voulez bien venir à Christ, donc venez dans la repentance. Non. C'est écrit ici, annoncer et noter maintenant à tous les hommes en tout lieu. Nous ne savons pas qui est élu, qui n'est pas élu. Ce n'est pas à nous de savoir, mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, nous annonçons comme un ordre, un commandement de Dieu, la repentance, qu'ils aient à se repentir. Alors, comment nous pouvons savoir ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas à Dieu? Comment est-ce que nous pouvons savoir ceux en qui l'Esprit œuvre par rapport à ceux qui sont laissés à eux-mêmes? Ça va être à travers le temps. Parce que ceux qui sont à Dieu, appelés par son esprit, attirés par son esprit, ils viendront à Christ dans la repentance. Parce que c'est Dieu qui donne cette repentance. C'est ce que Christ a dit dans Jean chapitre 6, où il a dit que tout ce que le Père lui a donné, viendront à lui, dans Jean 6 et le verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Beaucoup aiment citer seulement la deuxième partie de ce verset. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ils disent, ah voilà, donc Dieu est ouvert à tous. Mais ils ignorent la première partie du verset. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Si nous essayons d'attirer par notre influence ou bien notre pression, nos arguments, des gens à prendre une décision pour Christ, donc ce sont des gens qui deviendront alors nos convertis. Ce n'est pas la manière que Christ attire les pécheurs. Il attire tous ceux que le Père lui a donnés. Et c'est pour ça qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui, parce que c'est lui qui les attire. C'est Dieu qui les a choisis depuis l'éternité et donnés à son Fils. Alors, la repentance, c'est un don de Dieu, c'est commandé par Dieu. Mais comme nous voyons ici dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 25, c'est Dieu qui donne. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir des stratégies et des méthodes qu'on étudie pour convaincre des pécheurs. Non. L'instrument que Dieu utilise, c'est sa parole et c'est l'Esprit de Dieu qui amène ceux qui lui appartiennent à la repentance. Et verset 26, alors, pour conclure, résume dans quel sens les pécheurs arrivent à la connaissance de la vérité. C'est écrit, et que revenus à leur bon sens. Le bon sens, c'est lorsque l'Esprit de Dieu, agissant dans le cœur du pécheur, amène ce pécheur à Christ. Et on a beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament où on a vu cette œuvre manifestée, l'œuvre de l'Esprit qui a pris un pécheur qui allait dans un sens et puis maintenant est attiré à Christ. Zachée est un exemple. Le brigand à la croix, c'est un exemple. L'apôtre Paul est un exemple. Il ne cherchait pas à se convertir, mais c'est Dieu qui l'a arrêté et par son esprit qui l'a converti alors à Christ. Revenu à leur bon sens. Le bon sens, c'est toujours dans le sens que le cœur, les yeux, tout est maintenant centré sur Christ et Christ crucifié. Et alors, ils se dégageront des pièges du diable. Christ est l'ennemi du diable, donc il ne va jamais vouloir qu'un pécheur s'attache à Christ. Donc il reste toujours l'ennemi de ceux qui sont à Christ. Mais cela n'empêche Christ de sauver qui il veut. Christ lui-même a dit ça dans Matthieu chapitre 16 et le verset 18. Il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rien ne peut empêcher Christ par son esprit de venir et attirer des pécheurs pour qu'il est mort à lui-même. Rien ne peut l'empêcher. Et c'est ainsi dans le verset 26 que les pécheurs se dégagent des pièges du diable qui jusque-là s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il faut dire que nous sommes tous nés dans ce monde assujettis à la volonté de cette nature pécheresse, mais aussi au diable, jusqu'au moment où Dieu, dans sa grâce maintenant, nous appelle, nous attire à Jésus-Christ. Et nous sommes alors délivrés de la volonté de Satan, délivrés de la volonté de cette chair et attachés maintenant à Christ. Alors voilà le ministère que nous avons. Et la repentance, comme je disais, est synonyme de foi. C'est la foi que Dieu donne pour son Fils Jésus-Christ. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà un bon moment dans ces versets, mais ma prière, c'est que le Seigneur lui-même daigne bénir cette parole à nos cœurs.